Comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors évidemment, hier vous m'avez séché, vous n'êtes jamais là où on vous attend, de quoi parlerons-nous demain? Alors tandis que la Grèce est en feu, qu'on se demande ce qui va se passer sur le nucléaire iranien, que Daesh fait parler et couler beaucoup d'encre, qu'il y a des événements aux États-Unis dramatiques, vous me dites, ben moi je voudrais parler du charbon. Quelle idée?
Eh bien, parce que, d'abord, moi je m'intéresse aux questions écologiques, comme vous, je suppose, enfin j'espère en tout cas. D'autre part, comme je le dis souvent, il n'y a pas encore de communauté internationale, contrairement à ce qu'espèrent les braves gens. En tout cas, ça ne fonctionne pas sur la base des fameuses valeurs occidentales universelles, d'où l'importance de la question écologique et d'où l'importance de la question du climat, dont vous avez parlé à plusieurs reprises, et donc l'importance du contrôle, du rejet du CO2, gaz à effet de serre, puisqu'il y a à peu près consensus scientifique maintenant sur le fait du réchauffement et sur la contribution humaine à ce phénomène. Mais c'est là, ce dont je voulais parler ce matin, c'est l'irrationalité de nos sociétés. C'est une occasion pour le souligner, parce que si le CO2 est vraiment le problème numéro un à cause du réchauffement du climat, on devrait en bonne logique abandonner et réduire en priorité les énergies qui dégagent le plus de CO2. C'est-à-dire le charbon.
Or le charbon. Oui,
et pire encore, la lignite. Et si on était rationnel, mais c'est un rêve, on réduirait donc le charbon, la lignite, on arrêterait le charbon, si on pouvait. On réduirait ensuite la part des pétroles les plus émetteurs de CO2, puis les autres. Ensuite, le gaz, ensuite seulement, le gaz qui émet beaucoup moins de CO2, et on garderait le nucléaire. Évidemment, le nucléaire le plus sûr possible, etc., qui n'émet pas de CO2. Donc on ne peut pas le remplacer par des énergies sans CO2, dans des conditions techniques et économiques viables, tout en développant bien sûr activement le solaire, l'éolien et le reste des énergies renouvelables. En réalité, qu'est-ce qu'on constate? D'abord que le charbon va rester longtemps la première énergie au monde. Que le fameux pic, vous savez, c'est le moment où la consommation de telle ou telle énergie commence à décliner. Le pic du pétrole est prévu vers 2020. Le pic du gaz vers 2030.
C'est demain, objectivement.
Mais celui du charbon vers 2050. Les calculs montrent que d'ici à 2100, les deux tiers des émissions des énergies fossiles viendront encore du charbon. C'est le problème numéro un. Et paradoxe par rapport à ça, mais on l'entend sur toutes les radios, y compris chez vous, dans une grande partie du monde développé, c'est la volonté de sortir du nucléaire qui prédomine. Même là, il n'y a aucun risque de tremblement de terre, ni de raz-de-marée, comme par exemple en Allemagne. Sortir du nucléaire, pas du charbon. On n'entend pas des mouvements sortir du charbon. Hein, vous n'avez jamais invité ici des gens qui parle au nom de ce thème.
L'inverse, c'est vrai que l'Allemagne, par exemple, pour plaire à son aile écologiste, Angela Merkel renonce au nucléaire et réactive le charbon.
J'allais y venir. La position électoraliste de Mme Merkel, je prononce le mot, mais vous avez cité le fait, qui est parfois présentée, ce qui est cocasse, comme la chancelière du climat. Alors qu'en réalité, elle est la chancelière par sa décision de sortir du nucléaire dans des conditions non préparées, improvisées, pour des raisons électorales, parce qu'elle veut pouvoir un jour récupérer les écologistes. Elle est la chancelière du charbon et de la lignite, dont l'Allemagne est le leader mondial. En fait, on ne peut pas sortir en même temps des énergies fossiles non renouvelables et du nucléaire. Il faut établir un ordre de priorité. Et ajoutons que, alors sur un autre plan, que par kilowattheure produit depuis un demi-siècle, le nucléaire a tué 4200 fois moins que le charbon, 10 fois moins que le solaire, 4 fois moins que l'éolien. Les gens ont peur potentiellement de l'accident nucléaire, mais on mélange Tchernobyl, accident nucléaire, Fukushima, accident géologique. Bon, c'est pas de la même nature tout à fait. En tout cas, sur le charbon, il faut se réjouir que le dernier G7, le 8 juin, en Allemagne, ait réitéré l'engagement des pays les plus riches à décarboniser l'économie, ou décarboner, ça dépend des cas, au cours de ce siècle, que le fonds souverain norvégien ait décidé de se désengager du charbon, comme l'Église d'Angleterre, ne riez pas parce qu'ils ont énormément d'investissements dans ce domaine, mais aussi en désordre en France, Axal, Crédit Agricole, Total en Afrique du Sud, mais il y a aussi d'autres cas dans d'autres pays, et que l'Agence internationale de l'énergie recommande l'arrêt des vieilles centrales à charbon. Mais vous voyez bien que c'est pas relayé dans le champ politico-public. Les pays pour lesquels ça va être très difficile de faire ça, c'est la Chine, mais la Chine essaie de réduire, grâce au nucléaire, sa consommation de charbon encore très élevée, l'Inde qui malheureusement au contraire le développe à fond, comme la plupart des grands pays émergents, plus près de nous, la Turquie, la Pologne et donc l'Allemagne. L'Allemagne a même obtenu que le nucléaire de l'Union européenne, que l'extraction du charbon soit dispensée des taxes que l'on met sur les énergies non renouvelables pour financer les énergies renouvelables. Elle a même obtenu que le nucléaire ne soit pas répertorié au niveau européen, comme ne produisant pas de CO2. Tout ça pour des raisons de contraintes de politique intérieure. Voilà. Donc, si on veut que les engagements qui seront pris à Paris en décembre, à la fameuse COP21, soit tenue, c'est pas la sortie du nucléaire qu'il faut accélérer, même si c'est intelligent de le réduire progressivement, ce serait la réduction du charbon. Il ne faut pas être idéologique sur ces sujets, mais rationnel et pragmatique. Alors, et ces petits exemples montrent qu'on ne l'est pas.
Il ne faut pas être idéologique. Faut-il être croyant ou religieux, Hubert Védrine, la Une du Figaro aujourd'hui. Écologie, la sainte colère du pape. Vous avez parlé d'Angela Merkel qui est considérée comme la chancelière du climat. Est-ce que le nouveau pape, François, qui appelle à un consensus mondial pour la sauvegarde de la maison commune, il a même dit au fond que l'écologie est dans l'ADN de l'Église. Alors voilà encore autre chose. Ça a de l'influence, ça peut jouer, ça a quelque chose d'important, ça.
Énormément. Ah oui. Parce que dans les grandes civilisations, dans les grandes cultures, les croyances religieuses de base sont fondamentales, mais lui, c'est le courant François d'Assise, franciscain, par rapport à la nature. Or, dans plusieurs des religions révélées, qui sont issues du Proche-Orient, de zones arides, il s'agit de dompter la nature, de la dominer, donc de l'exploiter sans fin. Et l'idée de vivre en symbiose avec la nature, qu'on trouve par exemple dans le bouddhisme, est presque absente. Du judaïsme, de l'islam, du catholicisme ancien. Donc le fait qu'un pape dise ça aujourd'hui, énormément de gens qui se croient complètement athées, qui ne se croient pas du tout religieux, en fait, baignent dans une sorte de culture. L'Europe a été chrétienne pendant 1500 ans, donc ça baigne les mentalités. Donc le fait d'exploiter la culture sans fin, si un pape dit ça, à mon avis, il faut rendre hommage à notre ami Nicolas Hulot, qui a eu cette idée, qui a fait ricaner tout le monde, mais c'est une idée intelligente.
Et quelle oreille du pape, hein, du pape vert.
Mais je crois que c'est très important. Vous devriez faire un portrait de François d'Assise un matin.
Voilà, les petits oiseaux de François sans OGM. Merci.
Nos frères les oiseaux.
Voilà, nos frères les oiseaux. Merci Hubert Védrine. Le monde de selon Hubert Védrine est à retrouver sur franceculture.fr à vendredi prochain.